Audiolib présente Métro 2034 de Dmitri Gloukovski, traduit du russe par Denis E. Savine, lu par Julien Châtelet.
Prologue.
Année 2034. Le monde gît en ruine. L'humanité est presque annihilée. Les radiations rendent les décombres des mégapoles inhabitables, et par-delà leurs limites, à en croire les oui-dire, s'étendent à l'infini des terres calcinées et de profondes forêts à la faune et à la flore mutées. Nul ne peut décrire ce qui s'y trouve avec certitude. La civilisation s'éteint. La mémoire de la grandeur passée de l'humanité se pare de fables pour devenir légende. Plus de 20 ans ont passé depuis que le dernier avion s'est arraché du tarmac. Les rails rongés de rouille ne mènent nulle part. Les grands projets architecturaux jamais achevés retombent en poussière. Les ondes sont silencieuses, et les officiers des communications n'entendent que du bruit blanc quand ils balayent les fréquences sur lesquelles hurlaient jadis New York, Paris, Tokyo et Buenos Aires. 20 petites années seulement depuis que c'est arrivé, mais l'homme n'est plus le maître des lieux sur Terre. Des organismes engendrés par les radiations sont bien mieux adaptés que lui pour vivre dans ce nouvel environnement. L'ère de l'humanité s'achève. Ceux qui refusent ce postulat ne sont guère nombreux, quelques dizaines de milliers. Ils ne savent pas si d'autres, comme eux, ont survécu et se terrent dans le métropolitain moscovite, le plus grand abri anti-atomique jamais construit, le dernier refuge de l'humanité. Tous étaient dans le métro le jour fatidique, ce qui leur a sauvé la vie. Désormais, des vantaux hermétiques les protègent des radiations et des monstres qui errent à la surface, et des filtres fatigués purifient leur eau et leur air. Des dynamos, assemblés par des bricoleurs, fournissent l'électricité. Dans les fermes souterraines, on cultive des champignons et on élève des porcs. Le pouvoir central s'est effondré depuis longtemps, et les stations sont devenues des micro-états. Les hommes s'y réunissent autour d'idées, de croyances, ou, plus prosaïquement, de filtre à eau. C'est un monde sans lendemain. Nulle place ici pour les rêves, les projets et l'espoir. Les sentiments cèdent le pas aux instincts, dont le principal est celui de la survie. La survie à tout prix. Vous pouvez découvrir les événements qui précèdent ceux décrits dans ce livre en lisant Métro 2033.
Chapitre 1. La défense de la Sévastopolskaya.
Ils ne revinrent ni le mardi, ni le mercredi, ni même le jeudi, qui avait été convenu comme le dernier délai. Le premier poste de contrôle était en état d'alerte 24 heures sur 24. Si les factionnaires avaient entendu ne fût-ce que l'écho d'un appel à l'aide, ou aperçu un reflet blafard de lampe sur les parois sombres et humides du tunnel en provenance de Nakhimovski Prospect, un groupe d'intervention aurait été dépêché aussitôt. La tension croissait d'heure en heure. L'élite des combattants, suréquipée, entraînée spécialement pour intervenir en de pareilles circonstances, était en éveil permanent. Le paquet de cartes qui servait à tuer le temps entre deux alertes prenait la poussière dans un tiroir du poste de garde depuis 48 heures. L'incessant bavardage coutumier s'était mué en échanges tendus, à voix basse, pour s'abîmer dans un silence lourd. Chacun espérait être le premier à entendre l'écho des pas des hommes de la caravane. Trop de choses en dépendaient. La station Sévastopolskaya avait été transformée par ses occupants en un bastion inexpugnable. Tous ses habitants, du garçonnet de 5 ans au vieillard décrépit, savaient manier les armes. Parsemés de nids de mitrailleuses, ceintes de barbelés et de hérissons tchèques assemblés de rails soudés, cette station forteresse, d'apparence invulnérable, pouvait tomber à chaque instant. Son talon d'Achille était le déficit chronique des réserves de munitions. Confrontés à ce que devaient endurer quotidiennement les habitants de la Sévastopolskaya, les résidents d'une autre station n'auraient jamais envisagé de la défendre. Ils l'auraient fui, tels les rats un tunnel inondé.